Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Neila Latrousse.
Il est 8h33 sur BFM TV RMC. Mon invité est Sébastien Chenu. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Chenu. Merci d'être sur RMC et BFM TV ce matin. Vous êtes député Rassemblement National du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale. Et dans quelques instants, on parlera du droit du sol et cette proposition des Républicains, un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Vous nous direz si vous la soutenez au Rassemblement National. Mais d'abord, Emmanuel Macron qui se saisit directement du sujet de l'agriculture après une visite surprise dans une exploitation du Doubs. Il reçoit à compter de demain les syndicats qui menacent de mener de nouvelles actions parce que les choses ne vont pas assez vite, disent-ils. Qu'est-ce que le président doit leur dire demain ?
D'abord, notre pays va de crise en crise. Je pense qu'il est important de poser les choses. Et je veux avoir une pensée d'ailleurs pour les infirmiers libéraux qui sont aujourd'hui en grève, aujourd'hui et hier en grève, dont la situation ne cesse de se dégrader. Nous, on a déposé d'ailleurs au Rassemblement National une proposition de loi pour revoir leur barème sur les indices kilométriques.
Mais
notre pays va de crise en crise et le président de la République surfe sur ces crises. Pourquoi
Comment ça, il surfe sur ces crises ?
C'est-à-dire que le président de la République a peur en ce qui concerne les agriculteurs, il leur a menti.
Comment ça, il leur a menti?
Pour ça qu'aujourd'hui, il les reçoit.
Comment ça, il leur a menti?
J'y viens. Bon, d'abord, il a peur. Il a peur de faire un mauvais salon de l'agriculture. Il les reçoit à toute vitesse. Gabriel Attal reçoit les jeunes agriculteurs. Ils ont compris qu'en termes d'image, puisque ce sont des gens qui ne sont attachés qu'à l'image, Gabriel Attal et le gouvernement, il n'y a que l'image et la com qui les intéressent. Donc ils se disent, oulala, notre image va en prendre un coup. Vite, recevons encore une fois les agriculteurs. Ils ont
menti. Il les reçoit chaque année avant le salon de l'agriculture, dit-il.
Enfin, là, ils insistent d'ailleurs tous les deux pour dire qu'ils les reçoivent parce qu'il y a cette crise du monde agricole. C'est eux-mêmes d'ailleurs qui insistent là-dessus. Oui, ils ont
Pourquoi
menti.
Pourquoi ils leur ont menti?
Ils ont menti parce que ce qu'ils ont raconté pour calmer les agriculteurs il y a 15 jours, en réalité, ce sont des balivernes. Regardez, le calcul des retraites des agriculteurs. Est-ce que les choses ont avancé? Rien n'a avancé. Le traité du Mercosur.
Il n'y a pas de baguette magique pour changer.
La réforme des retraites des agriculteurs, ça a été annoncé il y a très longtemps au moment de la réforme des retraites, au moment du débat sur la réforme des retraites. Ça n'est toujours pas réalisé. Le Mercosur, qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi? Hier, enfin le 12, c'était il y a quelques jours, hier ou avant-hier, au Parlement européen, à la Commission européenne, on entend les négociations sur le Mercosur continuent, bien entendu, on sait qu'il y a des gouvernements et des chefs d'État qui ne sont pas d'accord, mais l'Union européenne continuait à négocier sur
le
Mercosur.
Mais si la France ne signe pas, il n'y a pas d'accord.
On continue. Et puis,
Emmanuel Macron a dit, c'est toujours la même logique.
Donc en fait, Emmanuel Macron à Paris dit, je me scandalise du Mercosur, c'est honteux, on va regarder ça. Et puis au Parlement européen, à la Commission de Bruxelles, et ben on continue, pas de problème, on continue.
Mais il n'y a pas de traité aujourd'hui.
Donc en réalité,
il est pas signé
la négociation.
Et la France ne le signera pas, dit Emmanuel Macron.
Mais ce n'est pas visiblement ce que les Européens entendent, en tous les cas.
Ce n'est pas ce qui
est relayé au Parlement européen et à la Commission européenne. Et j'ajoute une nouvelle chose sur les transpositions. On s'aperçoit que la France continue à surtransposer. On a découvert un bidule qui s'appelle une transposition d'un bidule qui s'appelle le Nodu, c'est-à-dire en fait sur les phytos. Une transposition française inventée en France qui est encore plus dure que les directives européennes. Et ben ça continue. Donc les agriculteurs, ils ont très bien compris que on les a baladés jusqu'à présent et que s'ils ne montent pas le ton, s'ils ne poussent pas le gouvernement à bouger, eh bien on reviendra à la case départ comme les gilets jaunes sont revenus à la case départ en leur temps.
Donc ils ont raison de maintenir la pression, c'est ce que vous nous dites ce matin.
Ils ont raison parce que sinon c'est notre agriculture qui va être effacée. Et je crois que quelque part c'est aussi à travers ces obsessions de la décroissance qui sont relayées par les députés européens d'Emmanuel Macron par exemple et puis par la gauche, c'est notre agriculture qui va être effacée. Donc oui, bien entendu que pour faire changer les logiques, il faut maintenir une certaine forme de pression.
Mais Sébastien Chenu, en 12 jours, s'il y a 12 jours la conférence de presse de Gabriel Attal, des choses ont été faites par exemple sur le GNR, le gazole non routier, la taxe qui était prévue, elle n'existe plus. Alors, il y a tout de même des choses qui ont été faites.
Mais oui, mais la trousse, c'est pas une victoire sur le GNR, c'est simplement une source d'ennui en moins, c'est simplement des difficultés fiscales en moins. Nous, on avait proposé lors du débat sur le budget en septembre et octobre, on avait proposé que on ne revienne pas sur la taxation du GNR qui bénéficiait d'un avantage fiscal. À l'époque, Bruno Le Maire, vous avez traité de tous les noms. Vous êtes des démagos, vous êtes inconséquents, c'est scandaleux. Mais finalement, ils y reviennent. Que de temps perdu. Et ça fait 7 ans qu'ils sont aux manettes. Si vous voulez, la crise agricole, elle date pas d'il y a 15 jours. Vous me dites, ça fait 15 jours qu'ils s'en occupent. Très bien, d'accord, mais ça fait 7 ans qu'ils sont aux manettes. Et ça fait 15 jours qu'ils s'en occupent. Il y a un problème.
Sébastien Chenu, votre parti, le Rassemblement National, lance cet après-midi une commission d'enquête sur les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de la France. Qu'est-ce que vous allez essayer de démontrer avec cette commission d'enquête?
On veut savoir qui, finalement, sont aussi les gagnants de cette crise agricole et de cette crise alimentaire.
Vous avez une idée là-dessus?
Oui, bien sûr qu'on a une idée. On voit bien les prix, par exemple, de l'alimentaire n'ont jamais été aussi hauts. Et de l'autre côté, les agriculteurs n'arrivent
qui
pas à boucler leur fin de mois. Ça veut dire qu'il y a des intermédiaires, les grandes centrales d'achat, les industries de l'agroalimentaire, la distribution, qui forcément, à un moment ou à un autre, sont gagnants. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les chiffres, ils sont gagnants. Donc on veut voir comment ces intermédiaires sont gagnants, pourquoi, à quel niveau, et comment on corrige tout cela.
Il n'y a pas que les agriculteurs qui maintiennent la pression, il y a aussi les contrôleurs de train qui menacent d'une grève dès ce week-end. Pourquoi autre chose? Ils disent exactement la même chose que les agriculteurs. Ils disent, on manque de considération, on n'est pas assez payé. Est-ce que c'est un mouvement de grève que vous soutenez?
Alors il y a le fond et il y a la forme. Sur le fond, moi je les comprends parfaitement. Sur le fond, je comprends. Des Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui travaillent, qui se lèvent tous les matins, qui sont dans des situations parfois difficiles. Quand on est contrôleur, on se retrouve à une certaine forme parfois d'agressivité. Je comprends sur le fond. Sur la forme, j'ai des réserves parce que les Français... sincèrement, on bave tellement que se retrouver à nouveau en période de vacances bloquée, je pense que il faut évidemment revoir ça. Mais ça dit deux choses. D'abord, un manque d'anticipation, encore une fois. On ne propose jamais des mesures pérennes aux Français sur leur pouvoir d'achat de la SNCF, mais aussi du gouvernement qui doit accompagner et qui, là, encore une fois, se retrouve comme un lapin dans les phares d'une voiture à se dire, nous voilà encore pris. Et puis, si vous voulez... La SNCF, enfin les contrôleurs grévistes de la SNCF ont compris une chose.
Il y a deux syndicats sur quatre.
Hein, oui, deux syndicats sur quatre, vous avez raison. Ils ont compris une chose, c'est qu'il faut mettre la pression sur le gouvernement dans les moments les plus difficiles pour les Français
pour le voir
bouger. Malheureusement, ce gouvernement anticipe si peu, pratique si peu le dialogue social, prend si peu en considération la souffrance des Français, qu'effectivement on en arrive à des situations totalement aberrantes où il faut bloquer pour se faire entendre. C'est l'inverse du dialogue social sur lequel, je vous le rappelle, notre République est une République sociale repose également.
Sébastien Chenu, j'en viens à cette proposition des Républicains. Ce matin, un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Est-ce que c'est une bonne idée?
Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire de la politique sur le dos des Mahorais? Est-ce que des Républicains à Gérald de Darmanin...
Vous proposiez aussi un référendum sur l'immigration?
Non, mais nous, on propose des choses sérieuses depuis très longtemps. Et je crois
c'est
que
pas
Marine
sérieux
Le Pen...
ce que proposent les Républicains?
Non, c'est toujours Monsieur Plus. Nous, on veut résoudre les problèmes des Mahorais. Et Marine Le Pen, depuis très longtemps, et je vous rappelle qu'en 2018...
C'est pas que sur Mayotte, hein, le référendum d'initiative
partagée des Bien sûr, mais je vous rappelle qu'en 2018, Marine Le Pen a déposé une proposition de loi sur le rétablissement, sur la fin du droit du sol à Mayotte, mais partout en France. Et je pense qu'il faut prendre les problèmes avec sérieux. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un souci. Et à Mayotte, c'est plus qu'un souci, c'est une crise énorme. Comment ne pas penser à nos compatriotes mahorais pour ensuite sortir ce qui peut s'apparenter à un gadget.
Je vais revenir au sujet de Mayotte plus précisément, mais juste sur le référendum d'initiative partagée sur l'immigration, vous dites ce n'est pas sérieux. Pourquoi?
Mais non, mais parce qu'on a l'impression que les Républicains font de la politique sur le dos des Mahorais. Enfin, d'abord, est-ce qu'on se rend compte?
Les Républicains proposent des réformes sur l'immigration depuis 2017. Des amendements sur la dernière loi de décembre.
En 2008, François Baroin, ministre de l'Outre-mer, disait faut revenir sur le droit du sol. En 2005, en 2008, c'était Christian Estrosi qui le disait. Que s'est-il passé? On les a vus aussi à l'œuvre. Donc aujourd'hui, dire on a eu une super idée, on va faire un référendum d'initiative partagée, je pense qu'il faut prendre les choses sérieusement. À savoir où on est et où on va. Où on en est à Mayotte. Ce qu'on veut pour notre pays. Quand Gérald Darmanin dit...
C'est pas sur Mayotte, hein, précisément,
sûr,
non, encore une fois, le référendum d'initiative partagée.
C'est Mayotte le déclencheur.
C'est plutôt la censure du Conseil constitutionnel dans certain nombre de dispositions de la loi immigration.
Justement, quand Gérald Darmanin dit le droit du sol est attractif pour une immigration incontrôlée à Mayotte. Mais s'il l'est à Mayotte, le droit du sol, s'il est attractif, il l'est partout sur le territoire. Et c'est bien ce que nous disons. Donc il faut solutionner ceci en revenant sur le droit du sol. Ce qui n'empêchera pas des gens d'ailleurs de pouvoir se faire naturaliser, d'acquérir la nationalité française selon un certain nombre de critères.
La réforme du droit du sol ne fait pas partie en l'espèce du référendum d'initiative partagée que proposent les Républicains. Mais venons-en à Mayotte.
Et qu'est-ce qu'ils proposent,
puisque
les
vous
Républicains,
voulez en parler, ils proposent notamment de durcir les conditions du regroupement familial. Ils proposent.
Non, mais nous, on a un référendum. On propose depuis longtemps un référendum avec un texte que Marine Le Pen.
Mais je comprends que vous ne soutiendrez pas l'initiative des Républicains.
Non, mais il se réveille un beau jour en disant tiens, on va faire un référendum d'initiative
efficacité.
De l'efficacité.
Vous parliez de Mayotte. À Mayotte, il n'y a pas d'aide médicale d'État que vous proposez de supprimer, que les Républicains proposent de supprimer. Je précise, c'est un dispositif qui permet notamment aux étrangers en situation irrégulière, précisément aux étrangers en situation irrégulière, de bénéficier d'un accès aux soins. Pas d'aide médicale d'État à Mayotte, Sébastien Chenu, et pourtant l'immigration explose.
Oui, mais
ils ne viennent pas pour l'AME.
Non, mais ils viennent pour d'autres choses. D'abord parce que les Comores sont beaucoup plus pauvres que Mayotte.
C'est pas un sujet de pompe aspirante. Mayotte, ce n'est pas Monaco non plus.
Mais Mayotte, c'est le département le plus pauvre de France. Mais ça reste plus riche que les Comores. Et vous savez qu'il y a aussi la volonté pour les Comores de s'approprier Mayotte. Il y a la revendication comorienne de s'approprier Mayotte. Et ils le font en envoyant les leurs, finalement, accoucher, s'installer et vivre
des
à Mayotte.
Aides, ils viennent juste parce que le niveau de vie, l'espoir de trouver un emploi, de faire étudier leurs enfants.
Le niveau de vie, c'est aussi des aides. Le fait de pouvoir scolariser des gens, leur trouver un logement, leur trouver un emploi. Ça repose pas sur rien, c'est bien l'argent,
c'est bien l'argent des Français.
Oui, enfin ce sont bien les Français qui financent l'école publique avec leurs impôts. Donc évidemment, mais Darmanin le dit, le droit du sol, c'est attractif pour l'immigration. Mais ça l'est partout. Donc Mayotte bénéficie déjà d'un régime avec une certaine forme de dérogation en ce qui concerne l'immigration. Eh bien nous considérons que la fin du droit du sol, c'est une proposition que nous portons pour toute la France.
Et ce n'est pas de l'opportunisme politique, puisque là encore, quand on compare Mayotte et l'Hexagone, Sébastien Chenu, ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Mayotte, 48% de population immigrée, on en est très très loin en métropole.
Mais Mayotte est notre avenir si nous ne faisons rien. Pourquoi ? Parce que demain, les migrations économiques sont aujourd'hui
très
importantes.
Vous voyez 34 millions d'immigrés demain en France ?
Laissez-moi vous expliquer. Demain, les migrations climatiques vont concerner des millions d'êtres humains. Donc si nous ne faisons pas en sorte de mettre des frontières, de contrôler notre espace, de savoir qui peut entrer, qui peut se maintenir, qui peut être français, qui n'a pas le droit, eh bien demain, dans 50 ans, eh bien nous aurons ces problèmes face à nous. Il faut les anticiper. On nous dit matin, midi et soir, attention, le climat, la difficulté liée au climat va provoquer des catastrophes. Oui, les migrations climatiques sont devant nous.
Sébastien Chenu, à Mayotte, la restriction de l'accès à la nationalité votée en 2018 a conduit à ce qu'on appelle une nouvelle fraude, les fausses reconnaissances de paternité. Aujourd'hui, un enfant né à Mayotte peut se voir délivrer un certificat de paternité par quelqu'un de Mahoré sous condition d'un échange financier. Je te donne un chèque, tu me donnes une reconnaissance de paternité. Est-ce qu'il faut des tests ADN ?
Nous avions demandé en tous les cas en France qu'il puisse y avoir notamment pour les mineurs non accompagnés des tests ADN pour savoir s'ils étaient vraiment mineurs, etc.
C'est un autre sujet,
mais ça veut dire que l'idée du test ADN peut faire irruption dans le débat. Moi je n'y vois pas forcément d'inconvénient, on peut regarder ça.
Mais il faut un parent ou deux parents français.
Mais non, mais vous savez très bien que le droit du sol qui est arrivé à peu près en 1889, enfin au 19e siècle, il a beaucoup évolué et il est devenu une automaticité. D'ailleurs, à l'époque le gouvernement Balladur était revenu, la gauche l'a remis en place. Donc
il faut le réclamer à 18 ans et avoir vécu un certain nombre d'années.
Nous considérons qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il n'y ait d'automaticité. Ce n'est pas parce que vous naissez en France qu'automatiquement vous devez être français.
Mais vous dites y compris si des parents déclarent l'enfant, si un père déclare des enfants, pourquoi pas test ADN demain pour vérifier que ce n'est pas une fausse déclaration de paternité.
Écoutez, en tous les cas, Mayotte, dans cette situation particulière, je pense que l'ouverture des tests ADN, le recours aux tests ADN pour lutter contre l'immigration incontrôlée dans notre pays, et Mayotte fait partie de notre pays, est une possibilité qu'il ne faut pas exclure.
Et donc, si je vous ai bien compris, 2027, si vous arrivez au pouvoir, plus de droit du sol.
Non, mais ça veut dire qu'on peut quand même devenir français. Non, mais ça veut dire qu'on peut quand même continuer à devenir français.
Vous supprimez le droit du sol.
Il n'y a plus d'automaticité. Oui, la fin du droit du sol. Ça veut dire que, mais vous savez, le droit du sol ne s'applique pas dans tous les pays. Hein. C'est une spécificité française aussi. Mais ça veut dire qu'on pourra devenir français selon d'autres critères et ce ne sera pas automatique. Bah oui, je pense que c'est le minimum.
Et dans le cas de Mayotte, il faut une réforme constitutionnelle, Sébastien Chenu, oui. Pour que le droit du sol soit entériné. Est-ce que le Rassemblement national la votera?
Bah, on a demandé la fin du droit du sol à Mayotte. Donc, on est plutôt disposé à regarder ça avec bienveillance. Mais nous, nous considérons qu'il faut aller plus loin, la fin du droit du sol.
Vous la voterez?
S'il n'y a pas des cavaliers, si derrière, il n'y a pas d'autre chose, parce que j'ai vu aussi que la fin du visa territorialisé qui visait à envoyer les milliers de migrants en métropole...
Vous dites oui, si c'est que le droit du sol à Mayotte, on
bien sûr,
sans condition. C'est-à-dire, vous ne réclamerez pas que ce soit étendu à...
On va regarder le texte. Mais ce premier pas, nous l'avons demandé pour Mayotte, pour soulager les Mahorais. Nous allons évidemment le voter, mais j'attire l'attention du gouvernement pour pas qu'il se retrouve dans le même piège que la loi immigration, c'est est-ce que le Conseil constitutionnel validerait ça? Parce que là, ce n'est plus une exception. On sort finalement Mayotte du même droit que les autres départements français. Donc, est-ce qu'il est possible qu'un département français soit à ce point sorti du droit commun? C'est une question de constitutionnalité et j'aimerais que le gouvernement y réfléchisse avant de nous convoquer en congrès.
Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement National du Nord. Est-ce que près de la moitié d'un gouvernement composé de millionnaires, ça vous choque, de ministres millionnaires?
Mais c'est pas ça qui me choque en réalité. C'est pas que les gens aient pu gagner à un moment ou un autre leur vie à l'extérieur avec Dupond-Moretti.
Les ministres peuvent être millionnaires.
Les ministres peuvent être millionnaires. Ce serait bien aussi qu'il y ait des ministres qui arrivent de la vie réelle et qui ne le soient pas. Mais on a l'impression que c'est la politique qu'ils mènent qui est au bénéfice des millionnaires avec Emmanuel Macron. C'est la politique menée par le gouvernement d'Emmanuel Macron au bénéfice de quelques-uns. Et ça me choque davantage.
Mais ça
parce
vous
que vous pouvez
pas.
Avoir, parce que
je vous ai coupé. Vous aviez parlé d'Éric Dupond-Moretti. Vous dites, il a gagné sa vie honnêtement.
Mais regardez, il y a des gens très riches qui ont une conscience sociale. Jean-Louis Borloo était un avocat richissime. Il a une conscience sociale lorsqu'il a aidé le Valenciennois, dont je suis voisin, à se sortir de la difficulté. Donc c'est pas le sujet. Simplement, c'est la politique qu'on mène. Le gouvernement d'Emmanuel Macron mène une politique au bénéfice d'une France qui va déjà très bien et uniquement de celle-ci. Parce qu'il est où la mobilisation du gouvernement d'Emmanuel Macron pour les ouvriers des Ternites à Olchin dans ma circonscription? Elle est où la mobilisation du gouvernement pour les infirmiers libéraux en grève aujourd'hui? C'est ça qui m'importe.
La moitié des ministres millionnaires, ça ne vous choque pas? C'est-à-dire la proportion non plus ne vous choque pas davantage?
Non, ce qui me choque, c'est la politique qu'ils mènent.
Vous n'êtes pas millionnaire, pardon.
Non, mais ma déclaration de patrimoine est en ligne, elle est consultable.
Marine Le Pen, je le précise pour nos auditeurs, puisque toutes les déclarations de patrimoine le sont, elle dispose d'un patrimoine supérieur à 1 million, ce qui en fait une millionnaire.
Lorsqu'on est propriétaire, ce qui n'est pas mon cas, à Paris, d'un patrimoine, on est souvent à un moment de sa vie, lorsqu'on a dépassé 50 ans, amené à avoir un patrimoine qui a évidemment beaucoup monté.
Parmi les ministres dont on parle, enfin ex-ministres dont on parle beaucoup aujourd'hui, Sébastien Chenu, il y a Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, qui va retrouver les bancs de l'Assemblée. Est-ce que vous avez hâte de la retrouver?
Non, pas du tout.
Elle va devenir députée, elle va siéger avec vous.
Mais j'ai pas du tout de la retrouver. Elisabeth Borne était parfaitement odieuse, avait un mépris total du Parlement, Madame 49-3. Alors elle va voir ce que c'est qu'être députée, elle va voir ce que c'est que siéger la nuit, elle va voir ce que c'est qu'être frustrée parce qu'un gouvernement répond à côté de la plaque. Donc bienvenue dans la vraie vie politique, Madame Borne, et bienvenue dans la confrontation des idées qu'elle détestait.
Il y a Elisabeth Borne, il y a d'autres ministres, l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, l'ancien porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'ancien ministre des Transports, Clément Beaune. Quel accueil vous leur réservez? Est-ce qu'il y a une tradition d'accueil républicain?
Non, il n'y a pas de tradition particulière. Moi, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, je m'attacherai évidemment à traiter ces nouveaux députés exactement de la même façon que tous les autres. Et ils reviennent dans le chaudron de la politique. On va voir de quoi ils sont capables et on va voir s'ils ont le même regard sur la politique qui est menée par le gouvernement lorsqu'on est un député de base.
Vous pensez qu'ils vont changer de regard?
Je pense que leurs électeurs qu'ils vont retrouver ou qu'ils vont enfin recroiser vont pouvoir leur rappeler que la politique qui est menée n'est pas au bénéfice des Français.
D'un mot, Sébastien Chenu, demain, hommage national à Robert Badinter, vous y serez? Le Rassemblement national y sera?
Le Rassemblement national n'exclut pas d'y être. Moi, j'aimais ces combats. Moi, je suis un abolitionniste. Donc, voilà, dépénalisation de l'homosexualité, fin de la peine de mort. Moi, je souscrivais à ces combats. je pense que la société se porte mieux avec ça, même si je sais qu'il y a beaucoup de Français.
Il a fait avancer la société.
Oui, incontestablement.
Tout le monde ne dit pas ça dans votre parti. Hein.
D'accord, mais c'est
mais
normal.
Vous considérez
parce que je pense que, par exemple, la fin de la peine de mort, on ne la comprend que s'il y a la perpétuité réelle dans notre pays. Or, aujourd'hui.
Qui existe avec
30 ans et 22 ans de sûreté. Donc, c'est pas la perpétuité.
Et 30 ans de sûreté pour
réelle,
la perpétuité incompressible.
Pour un certain nombre de cas très particuliers. Le terrorisme en fait partie. Mais ça veut dire que, il faut des peines sévères. Il faut une justice qui ne soit pas laxiste si on veut de l'autre côté comprendre que la peine de mort n'est pas une solution.
Vous n'êtes pas nostalgique de la peine de mort
Non, pas du tout, non.
Merci Sébastien Chenu. Bientôt 8h52 sur BFM TV et RMC. Je retiens donc que le Rassemblement National sera vraisemblablement demain à l'hommage rendu à l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter qui a supprimé la peine de mort. Je retiens aussi que vous taxez Emmanuel Macron de mentir aux agriculteurs sur la crise. Emmanuel Macron qui, je le rappelle, recevra à partir de demain les syndicats agricoles un à un. Merci à vous.